7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins. Comme chaque vendredi, nous parlons d'éducation aujourd'hui. L'innovation a-t-elle toute sa place dans l'école française? Nous sommes dans un système éducatif très centralisé où l'éducation nationale est le premier employeur de France, je vous le rappelle, et où il est parfois difficile de faire bouger les lignes, alors que les Français se prononcent aujourd'hui majoritairement pour une évolution de la façon d'enseigner, plus adaptée au monde d'aujourd'hui. Alors que les enfants aussi et les adolescents passent de plus en plus de temps sur Internet et ne considèrent plus les adultes comme la seule source d'accès au savoir. Parallèlement, les progrès des neurosciences nous en disent plus aussi sur le fonctionnement du cerveau des enfants pour apprendre. Tout cela converge-t-il ou pas vers une nécessité absolue de changer l'ordre établi de l'apprentissage et de la transmission des savoirs, y compris des relations par exemple entre le maître et l'élève? Et si c'est le cas, quels sont les écueils pour ces transformations? Nous allons en discuter avec nos invités. Sylvie Desclèbes, bonjour.
Bonjour.
Vous publiez Montessori au collège. Maria Montessori, qui est cette célèbre pédagogue italienne qui, il y a plus d'un siècle,
oui,
a remis totalement à plat les principes de l'enseignement. Elle était médecin d'ailleurs,
oui, elle était médecin,
au départ. Et votre livre s'appuie sur votre expérience concrète en tant que directrice du lycée international, oui, Montessori Athéna de Bailly,
oui,
qui est situé où exactement?
Dans les Yvelines, pas loin de Versailles.
Donc en région parisienne, que vous avez créée, oui, comme une suite logique à l'école Montessori que vous aviez créée quelques années,
voilà,
plus tôt.
Voilà.
Montessori, vous en avez fait un métier, une entreprise presque, hein, formatrice, directrice de l'organisme de formation Apprendre Montessori, et puis consultante aussi pour la création de crèches, de jardins d'éveil et d'écoles Montessori. Également avec nous, Laurence Decocq, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeure d'histoire géo à Paris, et chercheuse en sciences de l'éducation à Paris 7, et vous vous interrogez sur ce qu'on peut appeler désormais les success stories des pédagogies nouvelles dans un pays qui attend de toute urgence des recettes pour faire réussir tous les enfants, alors que 20% des élèves arrivent en sixième avec de réelles difficultés en lecture et en mathématiques. L'éducation qui, après l'économie, est une priorité du nouveau chef de l'État, Emmanuel Macron, avec des mesures attendues dès la rentrée prochaine.
7 milliards de voisins, ça nous rapproche.
On est ensemble. C'est votre vie au quotidien.
Et la planète se barre.
Sylvie Desclèbes et Laurence Decocq, parlons un peu du contexte, hein, de l'école française. Est-ce qu'il y a, selon vous, un problème de mal-être des enfants et des adolescents imputable au fonctionnement de l'école en France, Sylvie Desclèbes, vous qui avez fondé un collège Montessori?
Je pense en effet qu'il y a un mal-être dans l'école, dans le collège français aujourd'hui. Après, savoir pourquoi ou si c'est juste dû à l'école, je ne pense pas. Mais c'est vrai que moi, j'ai créé ce collège il y a à peu près 20 ans. Et qu'à cette époque, on recevait très peu d'enfants en phobie scolaire. Mmh. Et qu'aujourd'hui, je reçois 3, 4, 5 appels par jour de jeunes en phobie scolaire.
Donc de parents?
Voilà, de parents qui ont des enfants qui sont déscolarisés, qui sont hospitalisés, avec des tentatives de suicide. Donc pour moi, il y a vraiment un mal-être des jeunes au collège, puisque souvent, ça se déclenche vers la classe de 5e, 4e, pour devenir insupportable, souvent au niveau de la seconde. Souvent, il y a énormément d'enfants déscolarisés à cette époque. Donc moi, j'ai pas créé mon école dans ce contexte-là, hein, puisque je l'ai créé pour...
Mais ce mal-être-là, les parents vous indiquent qu'il est lié vraiment à l'établissement qui accueille ses enfants et pas un mal-être classique de l'adolescence?
Bah non, puisqu'en fait, souvent, l'enfant, quand il est hors du contexte scolaire, ça va. Le problème, c'est qu'il ne peut plus aller à l'école, il ne peut plus aller au collège, il ne peut plus... il peut apprendre, donc certains sont au CNED, certains restent à la maison avec des professeurs particuliers, mais ce qu'ils refusent, c'est l'accès dans l'école.
Ces demandes-là, ces appels au secours que vous recevez, sont en très nette augmentation.
Ah,
n'ont fait que croître durant ces 20 dernières années.
Et d'année en année, c'est de pire en pire. Puis après, avant, on se disait, c'est que la région parisienne, le mal-être de la région parisienne. Mais maintenant, c'est aussi énorme. Partout, quoi. Et même des gens qui veulent déménager, qui habitent vraiment loin, des parents qui sont prêts à changer de vie pour que leur...
Qui disent, mon enfant n'est pas heureux en classe.
Mon enfant n'est pas heureux, mon enfant ne peut plus aller en classe.
Laurence De Kock, comment vous voyez les choses sur ce mal-être des enfants et des adolescents par rapport à l'école ?
D'abord, juste, je voudrais cadrer quelque chose par rapport à d'où je vais parler là aujourd'hui avec vous. Je suis absolument consciente des dysfonctionnements du système éducatif français dans leur grande largeur. D'ailleurs, généralement, c'est plutôt sur ces questions-là que j'interviens, sur tout ce qui s'y passe, sur tout ce qu'il faudrait changer, etc. Donc, les propos que je vais apporter ici ne sont pas des propos qui viennent nuancer les dysfonctionnements, mais peut-être qui viennent les interroger un peu autrement. Donc, est-ce que le système éducatif est responsable d'une plus grande souffrance des enfants et des enseignants aussi, hein, parce qu'on parle aussi beaucoup de la souffrance des enseignants.
Bien sûr, vous êtes enseignante, j'allais vous poser cette question.
Moi, je pense qu'il y a deux choses, il y a deux manières d'appréhender le problème. D'abord, l'école est le miroir de la société. Indéniablement, c'est-à-dire qu'en fait, il se passe dans l'école ce qu'on retrouve dans la société. Donc, indéniablement, nous sommes aujourd'hui dans une société qui est en proie à des violences sociales absolument énormes, à des inégalités sociales énormes aussi, à de la souffrance, à du racisme, à des discriminations, à des phénomènes de ségrégation, etc. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a aucune raison que le service public échappe aussi aux dysfonctionnements qu'on peut observer par ailleurs et à l'accentuation des souffrances. Hein. On voit bien dans le monde du travail, l'école c'est un monde du travail. C'est du travail des enseignants et du travail des élèves. Donc si on l'appréhende du point de vue justement de la sociologie du travail, il n'y a aucune raison pour que l'école ne souffre pas de ce dont souffrent les autres salariés ou employés ailleurs.
C'est ça, ça serait le même mal-être que dans les entreprises.
En tout cas, on y trouve des facteurs explicatifs communs, le renforcement de la hiérarchie, la question de la concurrence, de la rentabilité, tout ça, ça a pénétré l'école. Donc, exactement comme dans le monde de l'entreprise, ça fabrique aussi des souffrances et des violences. Maintenant, sur ce que disait madame et sur l'augmentation du nombre d'appels de parents ou du nombre d'enfants en décrochage, ce que montrent les études à l'heure actuelle en réalité, même si on n'en avait pas forcément avant, donc c'est difficile de faire une comparaison avant-après dans l'école, hein. C'est toujours compliqué parce que dans l'école, il y a des nouvelles questions qui apparaissent. Alors après, on se dit bah tiens, comment c'était avant ? Mais on n'a pas archivé en fait les mêmes problèmes pour avant. En revanche, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on est aujourd'hui dans une société qui ne s'occupe plus de sa jeunesse comme elle s'en est occupée par exemple il y a 20 ou 30 ans. Et en particulier, on est dans une société qui est très, qui est très, très férue de savoir si les enfants vont bien, si les enfants apprennent bien, si la jeunesse va bien.
Ce qu'on appelle le bien-être en fait, hein, qui n'était pas une question centrale auparavant.
Absolument. Et maintenant, on la retrouve partout dans les études de psychologie et même dans les études de médecine, etc. Et bien sûr, dans le système éducatif. De la même manière, on est aussi depuis une vingtaine ou une trentaine d'années dans un système éducatif qui essaie le plus possible, avec des couacs, hein, d'incorporer les parents. Et donc d'associer les parents aussi à ce qui se passe dans l'école. Ce qui fait qu'il y a une distance beaucoup moins forte entre les parents et l'école. Et c'est ce qui fait aussi qu'il y a 30 ans, des parents pouvaient éventuellement hésiter à prendre leur téléphone pour dire « là, il y a un problème, qu'est-ce qui se passe avec les notes, machin, mon enfant va pas bien, il veut plus venir ». Or, aujourd'hui, ils n'hésitent plus. Dans certaines catégories sociales.
Davantage consommateurs, davantage clients de l'école d'une
certaine
manière.
Oui, en tout cas, bon après ça c'est assez disqualifiant comme terme, je préfère dire en tout cas qu'ils se sentent
partenaires,
voilà, même si on constate que dans les milieux populaires par exemple, ce que je dis là est moins vrai que dans les catégories sociales favorisées.
Sylvie De Kleb, vous déplorez que les familles se dirigent vers des établissements différents, ce que vous représentez, vous, avec votre collège Montessori, lorsque justement, précisément, leurs enfants rencontrent de grosses difficultés scolaires, psychiques.
Oui, parce qu'à ce moment-là, ce n'est pas un choix de pédagogie. C'est juste se dire, le système traditionnel ne répond pas aux besoins de mon enfant pour X, Y raisons. Donc, on va aller voir Montessori parce que Montessori va régler nos problèmes. Ce que je ne pense pas, parce que je suis d'accord, la société a énormément évolué. Donc, justement, quoi, moi, c'est la raison pour laquelle je pense que l'école doit évoluer, justement. Et le choix de pédagogie Montessori, ce n'est pas un choix de... quoi, d'une solution, parce que le reste ne fonctionne pas. Il faut que les gens y croient vraiment, parce que c'est vraiment une pédagogie totalement différente.
Mais en classe de 6e, justement, quelle est la différence entre les petits montessoriens qui arrivent de l'école primaire avec des méthodes Montessori, et puis les autres qui rejoignent l'établissement en 6e?
En fait, je pense que c'est une pédagogie Enfin, pour moi, hein, vu mon expérience hein, sur cette école.
Non, mais sur les enfants eux-mêmes. Sur
les... Oui, sur les enfants.
À l'œil nu, est-ce que vous les repérez dans la
Les enfants montessoriens et les autres. Ah oui, tout à fait. Bah, les enfants montessoriens, depuis tout petit, ils développent l'autonomie. Quoi, moi, je ne veux pas dire du mal du système traditionnel,
ni
des professeurs des écoles.
Parce que pour moi, le changement. Dans la salle de classe,
mais pour moi, le changement, il viendra des professeurs.
Qu'est-ce qui est visible à l'œil nu?
Ce qui est visible à l'œil nu, c'est qu'un enfant montessorien va se prendre beaucoup plus en main, beaucoup plus rapidement. Ce sont des enfants qui sont habitués à travailler par eux-mêmes, pas tout seuls. Hein, parce que l'éducateur est là pour présenter, pour expliquer, etc. Donc ce sont des enfants, ils se prennent en main beaucoup plus facilement que l'enfant qui vient du système traditionnel, où là, il est plus guidé, beaucoup plus porté, beaucoup plus assisté par l'enseignant, puisque c'est les classes où tous les enfants font la même chose en même temps en primaire. Bon, bah, l'enfant, il suit en fait ce qui se passe. Hein. Nous, l'enfant, chaque enfant travaille individuellement. Bon, moi, c'est du Montessori adapté, hein, c'est pas du Montessori pur et dur. J'ai adapté la pédagogie Montessori à ce que je pensais être le mieux pour les enfants d'aujourd'hui. Donc c'est vrai que...
Sachant que les méthodes Montessori, effectivement, ont été élaborées, donc il y a
un siècle. Donc c'est pour ça que moi j'y intègre le sport, l'art, la musique, qui n'est pas dans le système Montessori.
On a longtemps dit que les pédagogies alternatives, en général, ça marche pour l'école primaire, mais qu'à partir du collège, du lycée, il faut remettre les écoles, les élèves, dans un système classique, sinon ils ne pourront plus s'adapter à la société tout court. Hein.
Ben moi, je pense au contraire que ces pédagogies leur permettent de s'adapter mieux à la société tout court. Parce que dans la société, qu'est-ce qu'on va demander à un jeune? C'est d'être autonome, c'est d'être capable d'organiser son travail, c'est de travailler pour lui-même, pas pour des notes, hein, pas pour être meilleur que le voisin. C'est développer son sens de la responsabilité. C'est ce qu'on essaye de faire, de les rendre extrêmement responsables de ce qu'on fait, être capable de mener des projets. Donc moi, je pense qu'on les prépare mieux au monde de l'entreprise ou du choix de métier qu'il veut faire qu'en les assistant beaucoup, quoi, en les faisant travailler en groupe. Cette pédagogie individuelle où chaque enfant avance à son rythme, c'est bien connu aujourd'hui que les enfants ont des modes d'apprentissage totalement différents. Donc comment on peut penser que tous les enfants peuvent apprendre la même chose au même moment, de la même façon? C'est impossible.
Alors parlons des enseignants avec vous, Laurence de Kock, parce qu'il se trouve que vous êtes aussi enseignante, même si bien sûr vous n'êtes pas porte-parole d'un quelconque monde enseignant, mais est-ce que vous ressentez aujourd'hui dans les mentalités des enseignants, des attentes un peu différentes de travailler autrement, de peut-être de pacifier un petit peu la classe, puisque les enseignants se plaignent de leurs conditions de travail aujourd'hui?
Alors vraiment là, il faudrait segmenter en fonction des cycles. Un enseignant à l'école maternelle ou à l'école primaire,
parlons du collège.
Alors si on reste sur le collège, oui, le collège c'est le maillon faible du système éducatif. Et oui, on sent effectivement un monde enseignant qui est très fragmenté du point de vue de ses attentes et de ses demandes. Il faut savoir que ce qui différencie énormément le monde enseignant du secondaire de celui du primaire, c'est que le monde enseignant du secondaire est formé disciplinairement. Il est formé sur une, deux parfois, disciplines. Donc c'est une formation académique, traditionnelle, scientifique, et vous avez énormément d'enseignants, de moins en moins mais encore trop, qui arrivent au collège et qui n'ont jamais entendu prononcer le mot pédagogie. Il y en a même encore qui arrivent au collège et qui n'ont jamais vu un élève. Donc je ne peux pas vous répondre positivement au fait que les professeurs de collège seraient demandeurs de pédagogie, parce que généralement on ne demande pas ce sur quoi on a des présupposés qui généralement renvoient plutôt au côté école élémentaire, quoi. Le monde enseignant est très hiérarchisé. Il est très hiérarchisé et il tire sa dignité en fait du niveau et de la discipline qu'il enseigne. Ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire.
Et avec un grand attachement à sa discipline.
Avec énormément d'attachement et avec une hiérarchie à l'intérieur même des disciplines. Un prof de musique, c'est pas un prof d'histoire-géographie ou de mathématiques, par exemple. Ça se voit énormément dans les établissements, ça. Donc, le professeur de collège, étant donné que c'est effectivement une profession très difficile et qui va pas bien, il tire aussi sa qualification sociale de ne pas être un professeur des écoles. Il faut comprendre ça. Hein. Il faut comprendre que dans sa hiérarchie, mais symbolique, parce que même au niveau du salaire, il y a plus grande différence.
Donc, il est professeur et pas instit.
Il est professeur, il n'est pas instit. Voilà. Et donc, la pédagogie en France, elle est attachée de cette idée que c'est le truc des instit. Voilà. Et donc, ça comporte quelque chose de disqualifiant. Maintenant, c'est en train de changer et on se rend compte en effet que les problèmes qui touchent le collège, il va bien falloir passer par des détours pédagogiques pour pouvoir les régler. Mais c'est pas encore vraiment une demande.
Alors justement, nous, on va parler de la pédagogie, ça n'est pas un gros mot, la façon d'enseigner finalement. Avec vous, Sylvie Desclèbes, vous allez nous expliquer dans quelques instants qu'est-ce qui différencie ce collège Montessori d'un collège ordinaire, c'est-à-dire comment on apprend, comment on enseigne dans cet établissement.
Is our fear real danger? This world ain't simple, but I'm strong, I know how to get out. And I'll find my way, cause it's love real simple, and that's how it works. Oh, so won't you just give it up, cause you don't understand. Beg it up, but you don't understand. It's more than stand, I think it's no fame, it's a. And it's really nice, but you don't understand. So big it up, cause you don't understand. It's more than stand, I. Cause you don't understand, baby. I feel it's falling down.
Des clubs. Donc vous publiez Montessori au collège. Quels ont été les différents obstacles déjà pour monter, pour faire fonctionner ce collège Montessori en région parisienne?
En fait, je n'ai pas eu d'obstacle. En fait, pour moi, c'était dans la continuité. J'avais fait la maternelle, le primaire, et puis on est monté avec nos élèves, et puis on a accueilli les élèves autour.
Établissement
après,
hors contrat, donc.
C'est plus difficile pour trouver des enseignants, mais il y a quand même un certain nombre d'enseignants qui ne sont pas très heureux dans le système traditionnel, donc ils sont contents de venir travailler dans des pédagogies différentes. Donc c'est souvent ce type d'enseignants que l'on a. Donc voilà, après ce qui est différent, c'est qui n'est pas facile, c'est qu'en fait, on mélange aussi un peu les âges dans les classes, hein, c'est-à-dire les niveaux plutôt. Donc on a une classe de 6e, 5e, une classe de 4e, 3e. Ça, c'est pour garder le principe montessorien du mélange des âges qui permet aux plus grands d'expliquer aux plus petits. Donc une entraide, un sentiment vraiment d'aide entre eux qui permet aux plus grands de répéter, donc de reformuler, donc de mieux comprendre, aux plus jeunes de se dire ben, on va vers là. Donc c'est une pédagogie.
Ça, c'est intéressant parce que l'entraide, c'est vraiment quelque chose qui globalement absent de la pédagogie classique, hein, enfin de la façon d'enseigner dans les collèges en France.
Et pourtant, les jeunes aiment beaucoup ce côté, et ça développe énormément leur confiance en eux aussi, de se dire, je suis capable d'aider celui qui est plus jeune, ou celui qui arrive moins bien. Et pour moi, c'est quelque chose de très important à développer. Après, on est beaucoup en système individuel, mais pas... C'est ce que je disais, moi j'ai fait une adaptation de Montessori, c'est-à-dire que tous les cours ne sont pas individualisés comme ça, mais pour certaines matières, comme les maths, comme le français, comme les sciences, où les enfants en fait ont des capacités vraiment très différentes. On travaille sous la forme de plans de travail individuels où chacun avance à son rythme dans le plan de travail, ce qui fait que l'enfant qui est peut-être précoce, qui a besoin d'aller plus vite, il peut aller plus rapidement, donc ce qui fait qu'il ça évite qu'il ennuie les autres parce qu'il s'ennuie en cours. Celui qui a peut-être des difficultés, il peut aller plus doucement, plus à son rythme. Il peut recevoir plus d'explications de l'enseignant alors que l'autre en aura peut-être moins besoin. Donc ça me permet vraiment de nous adapter.
Mais c'est pas compliqué à gérer ça pour un enseignant? Il y a combien d'élèves par classe?
Si, c'est difficile à gérer. Il y a 25 élèves dans la classe.
Oui, donc pas tellement moins que dans un collège dit classique.
Non, un petit peu moins. Ouais. Mais après, c'est une question d'organisation. C'est aussi ce que j'ai gardé de Maria Montessori. C'est ce qu'elle appelle l'environnement préparé. Donc, faut préparer des plans de travail. Il faut préparer des fichiers autocorrigés pour que les enfants puissent avoir une part de correction. C'est un travail de préparation, mais une fois que c'est préparé, c'est vraiment quoi, c'est agréable de travailler de cette façon-là.
Il n'y a pas de notes?
Si, il y a des notes en collège, parce que le système veut qu'il y ait des notes, il faut quand même qu'ils aient des dossiers. Moi, je ne voulais pas marginaliser les élèves, mais les notes ne sont pas sur les copies, parce que moi, je ne suis pas pour ce système où dès qu'ils reçoivent leur copie, t'as combien, ce qui est vraiment pas très agréable pour certains qui ont beaucoup travaillé, qui n'ont peut-être pas un résultat extraordinaire, d'autres qui n'ont rien fait, qui ont un bon résultat. Donc les notes, si, il y a des notes, mais sur un serveur où seuls les parents et les enfants ont accès. De cette façon, c'est leur propre natte et c'est encore une fois essayer de travailler pour se dépasser soi-même plutôt que de dépasser le voisin.
Vous restez avec nous, Sylvie Descleb, Laurence Decocq. Quelle place pour l'innovation aujourd'hui dans le système scolaire français actuel ? On en discute avec vous deux. On va se retrouver juste après le flash, c'est-à-dire dans un tout petit peu plus de 3 minutes sur RFI, 7 milliards de voisins.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez sur RFI, 7 milliards de voisins. On parle d'éducation comme chaque vendredi. Quelle place pour l'innovation dans le système éducatif français actuel ? C'est-à-dire comment enseigner, apprendre différemment et surtout pour quels résultats ? Alors que l'école française est attaquée de toutes parts depuis plusieurs années, en partie à cause de ses médiocres performances par rapport à d'autres pays développés. Nous en discutons avec vous, Sylvie Descleb. Vous publiez Montessori au collège et vous dirigez le lycée international Montessori Athéna de Bailly dans les Yvelines. Donc, il s'agit bien d'un établissement complètement privé, hein, oui, hors contrat, oui, où donc ce sont les familles qui financent l'établissement scolaire, oui, avec des frais de scolarité à hauteur de combien à peu près, variable d'une famille à l'autre aussi.
Non, c'est pas variable d'une famille à l'autre, c'est malheureusement assez cher. Hein. C'est en collège, je crois, c'est dans les 590 euros par mois.
Forcément, puisque donc l'État ne paye pas les enseignants, comme c'est le cas dans les établissements privés sous contrat. Vous, vous êtes hors contrat. Voilà. Laurence Decocq, vous êtes professeure d'histoire-géographie à Paris et vous êtes chercheuse en sciences de l'éducation, Université Paris 7. Vous êtes historienne de la didactique. Voilà pourquoi vous êtes si précise depuis le début de l'émission sur la pédagogie, la façon dont c'est vécu en France. Nous disions d'ailleurs pendant le flash, vous nous disiez que dès qu'il y a une innovation, une expérience qui est relatée sur Internet, ça donne lieu à des débats très passionnels. Hein, d'abord de la part des enseignants, puisque c'est leur métier, ils y passent leur journée, mais aussi d'ailleurs aujourd'hui, maintenant, de la part des familles et des parents d'élèves qui ont un point de vue, qui veulent donner leur point de vue. Et donc vous vous interrogez sur les success stories des pédagogues nouvelle. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que l'innovation, les expérimentations qui sont actuellement testées, remettent davantage en cause l'enseignement public ?
Alors ça, c'est le point central de ma critique. C'est l'articulation qui est faite aujourd'hui entre un discours de l'innovation, mais je dirais même presque une injonction à l'innovation, des expériences qui relèvent parfois du semi-privé à l'intérieur du service public, c'est-à-dire pas ce que fait madame qui, elle, assume d'avoir un établissement hors contrat et qui y fait ce qu'elle y veut, mais véritablement des expériences qui relèvent d'une organisation complètement privatisée dans le service public, comme par exemple l'expérience récente de Céline Alvarez qui a été faite dans une école publique à Gennevilliers, dans une école maternelle avec des enfants. Voilà, et financé par des fonds à la fois publics mais aussi semi-privés. On en reparlera peut-être. Donc oui, il y a quelque chose à surveiller de ce point de vue-là. L'injonction à l'innovation...
Cette injonction à l'innovation, on la retrouve partout aujourd'hui, dans toutes les entreprises.
Oui,
l'innovation
voilà.
Est partout.
Absolument. Mais l'école n'est pas une entreprise. Et contrairement à ce que je disais tout à l'heure, où elle fonctionne de plus en plus comme une entreprise, l'identité professionnelle du service public, c'est précisément quand même de se prémunir contre ce qui pourrait la rapprocher un petit peu trop d'une entreprise privée. Donc l'école n'est pas une entreprise et il faut veiller parfois à ce qu'elle garde cette identité de service public, d'accueil pour toutes et tous. Tout à l'heure, madame, vous disiez par exemple 590 euros par mois pour une famille. On voit bien que pour certaines familles, c'est absolument impossible.
Ah bah bien sûr.
Hein, on est à plus de 50% du SMIC. Donc on voit bien que Là où l'école publique joue un rôle aussi, c'est quand même dans une éducation pour toutes et tous, pour tous les enfants, quelles que soient leurs appartenances sociales. Donc cette injonction à l'innovation, il faut y prendre garde parce que généralement aussi, elle s'accompagne de la dotation d'outils qui vont permettre de faciliter ces innovations, et en particulier d'outils numériques. Et on s'aperçoit que lorsqu'il y a des injonctions à l'innovation, il y a aussi des logiciels qui se créent, des sociétés du type Apple ou Microsoft qui proposent leurs services à l'éducation nationale, nationale, qui signe même des contrats avec l'éducation nationale. Voilà. Et tout ça, moi je fais partie des gens qui considèrent que ça dénature la fonction publique d'enseignement, parce que ça fait entrer aussi des outils privés, des choses qui relèvent de la gestion.
On peut être innovant sans outils numériques, non? Les méthodes Montessori, c'est plutôt des petits...
dans notre école.
Ah oui, c'est ça.
Ce que je voulais dire, c'est qu'on a quand même... de plus en plus, on travaille avec les mairies, avec l'éducation nationale, pour intégrer justement la pédagogie Montessori dans des écoles publiques accessibles à tous. Moi, j'ai un organisme de formation, comme vous disiez, il y a, sur l'ensemble des personnes que l'on a formées, il y a 60% de professeurs.
Mais c'est
de
vrai
plus
qu'on,
en plus
dit...
d'enseignants de collège. Donc, ce n'est pas quelque chose
on dit beaucoup
qui
que
coûte
le matériel,
de l'argent.
On dit beaucoup que le matériel coûte cher, par exemple, pour les méthodes Montessori, même si ce ne sont pas des outils numériques, ça peut être des objets en carton, l'alphabet.
Moi, j'ai rencontré énormément de professeurs des écoles qui fabriquent eux-mêmes, qui n'ont pas les moyens de le faire et qui font ça dans leur classe.
Qu'est-ce que vous utilisez, vous, par exemple, au collège? Qu'est-ce qu'on utilise?
Ben nous, on fait notre matériel aussi.
Des bouliers chinois.
Oui, des bouliers. Et je rencontre de plus en plus de professeurs des écoles qui font des projets du type Ulule pour avoir leur matériel dans leur classe.
C'est-à-dire financement participatif.
Financement participatif. Il y en a de plus en plus qui font ça.
Ouais.
Moi, je trouve ces gens-là remarquables parce qu'eux, justement, ils implantent dans leur classe en gardant certaines choses qui sont très, très bonnes de l'éducation nationale. Et justement, ils prennent les outils comme le matériel, comme le travail individuel.
Ils gardent dans votre livre, alors il y a des damiers.
Ils gardent le même nombre d'élèves. Ils implantent quand même cette pédagogie dans le public, accessible à tous, quoi, ce qui est un de mes objectifs aussi.
D'accord. Mais vous, le matériel, dans votre collège Montessori, c'est plutôt du matériel carton, bois. C'est pas tellement numérique, j'ai l'impression.
Ah non, il n'y a rien de numérique chez nous.
Oui, alors juste pour répondre sur plusieurs points à cet endroit-là. Chez Montessori, évidemment, lorsqu'elle fabrique ses objets, c'est pas numérique, c'était il y a un siècle, donc c'est principalement du bois, c'est des objets qui sont conçus, qui sont effectivement chers, qui sont parfois subventionnés, c'est vrai. L'équipement de la classe de Céline Alvarez, c'est 10 000 euros, mais qu'on peut trouver aussi maintenant sous la forme de dons, de prêts, et puis certains enseignants, notamment dans l'école élémentaire, j'y reviens, fabriquent aussi leurs propres outils.
Il faut bien réexpliquer à nos auditeurs, par exemple, la pédagogie Montessori, on travaille beaucoup avec le toucher, en tout cas pour l'école primaire, pour les enfants.
Oui, on travaille beaucoup avec le toucher, avec le rugueux, avec le boulier pour l'apprentissage des mathématiques, etc.
On travaille beaucoup avec la manipulation, avec la participation active des enfants. Et en collège, c'est beaucoup de matériel que l'on peut créer nous-mêmes,
Maintenant, la question de l'intégration des pédagogies nouvelles dans l'école publique, ça fait longtemps qu'elle y est. Et ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est comment les enseignants s'en saisissent. Et puis, ils se saisissent pas simplement de Montessori, ils se saisissent de tout ce qui existe. Beaucoup de Célestin Freinet aussi, par exemple. Et puis, ils font leur tambouille. Et ça, c'est assez intéressant de voir comment ils hybrident un petit peu toutes ces différentes pédagogies qui existent.
La fameuse liberté pédagogique de l'enseignant.
Voilà, la liberté pédagogique et puis une manière de se faire plaisir. Et puis aussi, encore, j'y reviens, une connaissance du monde de la pédagogie que le secondaire n'a pas. Maintenant, pour revenir sur le numérique, vous, madame, vous ne l'utilisez pas, mais je maintiens quand même ce que je disais tout à l'heure. En particulier, on voit bien que la pédagogie qui est la plus investie aujourd'hui par le monde numérique, par Apple, etc., pas que en France, mais dans le monde entier, notamment aux États-Unis, il y a des écoles Steve Jobs. Ce sont des écoles qui se réclament de Montessori, parce que ce sont des outils qui sont axés sur le développement de l'autonomie des enfants et qui fonctionnent à partir de tablettes qui sont fournies gratuitement
aux enfants. Ça m'étonne beaucoup, puisque nous, on part du principe que l'enfant doit toucher. Et donc, on ne met aucune tablette parce que l'enfant ne touche pas et ne développe pas sa main.
Ce sont des controverses internes à Montessori, mais allez voir, je vous promets que c'est vrai.
C'est une forme de marque, pour rassurer les familles. Mais derrière, il y a toujours le concept de bienveillance où l'enfant apprend par lui-même, c'est ça?
Oui, voilà. Et donc, vous avez des ingénieurs informatiques qui se sont concentrés là-dessus et qui ont développé des outils, notamment des applications. Je donne des exemples dans l'article sur Céline Alvarez dans la revue du Crieur, qui ont développé des applications qui sont vraiment focalisées sur cette question du développement de l'autonomie.
Mais alors justement, vous citiez Céline Alvarez puisque vous avez enquêté sur l'histoire d'un best-seller. Céline Alvarez, c'est donc cette institutrice de l'éducation nationale qui a mené des expérimentations pendant plusieurs années dans sa classe de maternelle, dans la banlieue parisienne, c'est bien cela. Et c'est surtout devenu un best-seller. C'est-à-dire, son livre a été vendu, je ne sais plus à combien de milliers d'exemplaires, bien au-delà du monde enseignant. Ça dit quoi sur les attentes de la société française par rapport à l'école et puis surtout sur les résultats de cette pédagogie? Qu'est-ce que vous en dites en tant que spécialiste?
Alors, ça dit, d'abord on est au mois de septembre, donc ça dit déjà un gros phénomène d'orchestration de la parution d'un ouvrage.
En septembre dernier, quand c'est sorti.
C'est un ouvrage de rentrée, qui est joyeux. Mmh. Et ça, c'est rare, parce que généralement, quand on publie des livres sur l'école en septembre, c'est toujours pour disqualifier comment ça fonctionne. C'est plutôt le mur des lamentations que le registre du bonheur. Et il se trouve que le livre de Céline Alvarez, c'est le registre du bonheur, au sens propre du terme. C'est le bonheur, l'amour, la bienveillance, etc. C'est un livre qui fonctionne énormément avec ce registre-là. Quand on le lit, on a l'impression d'une forme d'illumination du travail avec les enfants. Et ça touche des petits. Ils ont 3, 4, 5 ans. Donc, c'est aussi un livre qui active la fibre parentale, oui. L'amour maternel. Qui est indifférent au bonheur d'un enfant de 3, 4, 5 ans? Donc, ça repose aussi là-dessus. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que certaines librairies ne le mettent même pas dans le rayon école. Ils mettent dans le rayon bien-être, méditation, etc. Et de fait, moi, je soutiens l'idée que ce n'est pas un ouvrage de pédagogie, le livre de Céline Alvarez. C'est un ouvrage qui relate une expérience, qui est certes une expérience dans une école, qui fait appel aux pédagogies Montessori, mais aussi à la psychologie cognitive, aux neurosciences, etc. Et qui décrit cela comme quelque chose qui est absolument miraculeux. Alors évidemment, le miracle, ça fait vendre dans une société qui ne va pas très très bien.
Ce miracle n'existe pas en réalité pour vous ?
Alors, ce qu'il y a de sûr, c'est que la classe, l'expérience Céline Alvarez, elle a fonctionné les 3 années où elle y est restée. Certains enfants ont appris à déchiffrer, ont appris à compter, et ça a validé l'idée que la méthode Montessori, indéniablement, mais j'insiste là-dessus, est une méthode efficace.
Donc, à un âge où les parents sont toujours inquiets de savoir si leur enfant va correctement apprendre à lire.
Absolument. Maintenant, ce qu'on ne sait pas, parce qu'on n'a pas d'évaluation, en dehors de la première évaluation qui a été faite par l'association qui a financé l'expérience, la première année. Ce qu'on ne sait pas, c'est le devenir de ces enfants. On en parlait tout à l'heure, la plupart des enfants ont rejoint le système éducatif traditionnel. Les échos que j'ai eus, moi, de la part de gens qui ont regardé l'observation de près, mais je n'ai pas d'écrit, je n'ai pas de source, sont de dire que les enfants ne s'en sortent ni bien ni moins bien que les autres. Donc, s'ils ont fait leurs 3 années à l'école maternelle, mais lorsqu'ils arrivent en élémentaire, et puis là, ils vont bientôt arriver en collège, finalement, ils rejoignent les statistiques, c'est vrai d'ailleurs, assez déplorables, de l'échec scolaire et de ces 20% dont vous parliez au début. Ce qu'il y a de sûr aussi, c'est que quand on fait une expérience sur des enfants et qu'on est à ce point focalisé sur la réussite d'une expérience, il faut imaginer des enfants qui vont avoir régulièrement des électrodes sur la tête, parce que ce sont aussi des expérimentations de neurosciences.
Vous voulez dire donc avec une équipe ultra motivée, une institutrice très motivée.
Alors, une institutrice on ne dit plus institutrice, mais une professeure des écoles et puis son assistante qui, elle, est vraiment formée Montessori, et puis surtout des chercheurs qui défilent dans la classe. Donc des tout-petits qui savent qu'ils font l'objet d'une observation. Il faut imaginer que ces enfants-là, par exemple, ne vont pas en récréation avec les autres enfants. Ils ne développent pas de sociabilité avec les autres enfants des classes d'à côté. Je ne parle pas d'une autre école. Il faut imaginer donc qu'on a une mise en bulle d'enfants. Et ça, tous les chercheurs sont d'accord pour dire que lorsqu'on est dans une expérimentation aussi située et aussi intensive, ça marche. Mais ce qui est intéressant d'interroger de ce point de vue-là, d'abord, c'est la transposition à une échelle plus large de ce qui se fait. Et ça, c'est beaucoup plus douteux. C'est difficile, concrètement, pour des questions aussi matérielles dont on parlait tout à l'heure. Et puis, le devenir, ensuite, de ces enfants qui ont été à ce point sous la...
Je peux dire quelque chose?
Oui, Sylvie Desclèves, qui dirige un collège Montessori. Rien à voir avec l'expérience de Céline Alvarez.
Moi, ce que je trouve dommage, c'est que c'est une expérience de 3 ans. Donc, faire un livre sur 3 ans... Bon, pour moi, c'est bon.
Vous, c'est sur ailleurs, 20 ans de collège.
Moi, c'est sur 20 ans. Et puis, j'ai pas qu'une école. On en a 7. Ma fille a une école. On a des écoles. Donc, je peux dire juste une chose, c'est que l'apprentissage de la lecture entre 3 et 6 ans, ça marche. Les enfants, ils savent lire si on respecte leur période sensible, etc. Donc là, moi, je pense que on peut pallier ce manque.
Dire que dans vos écoles, il n'y a pas d'élèves qui connaissent de réelles difficultés dans l'apprentissage de la lecture.
Ceux qui ont commencé tout petits, non. Si, ils en connaissent, mais ils ont 3 ans, voire 4 ans pour apprendre à lire. Parce que dans le système, quand on apprend à lire sur le CP, il faut quelques petites choses en maternelle, mais très peu. Moi, ce que je dis, c'est que déjà, ça leur donne 4 ans pour apprendre à lire, voire 5 ans.
Mais on pourra aussi vous rétorquer que vos élèves ne sont pas des élèves à l'image de la société française. Quand on a les moyens de payer des écoles privées hors contrat.
Mais ce qu'on sait pas, c'est
donc ils sont beaucoup plus encadrés probablement dans les familles.
Parce que nous, on prend des élèves gratuitement, on fait des tas de choses qu'on raconte pas partout. Donc ça touche à peu près tous les élèves et de toutes les régions et de toutes les catégories, parce qu'on a pris des élèves gratuitement, justement, de milieux très peu aisés, parce que l'enfant avait besoin.
On va en reparler. Vous restez avec nous, parce qu'on parle, on va bien sûr parler des résultats que produisent les expérimentations innovantes à l'éducation nationale ou parallèlement à l'éducation nationale. Et puis surtout, vivons-nous vraiment dans l'attente d'un mythe, d'une recette miracle qui va changer l'école? On en rediscute dans quelques minutes. Dark chez 7 milliards de voisins. Nous parlons de la place de l'innovation à l'éducation nationale, à l'école avec un grand E en France, une société qui est de plus en plus crispée sur les résultats scolaires de ses enfants. Laurence Decocq, globalement, vous reconnaissez qu'il y a vraiment aujourd'hui quelque chose qui se construit autour de l'attente d'une recette miracle qui pourrait changer l'école. Est-ce que collectivement, nous sommes tous autour de cette attente-là?
Oui, je crois qu'il y a effectivement une attente de recette miracle qui, là encore, ne touche pas que l'école, hein, qui est aussi sociologiquement située dans le contexte actuel. On attend des recettes miracles pour tout, pour pas vieillir, pour pas avoir de rides. Et donc, l'école est aussi touchée par ça. Là où, en revanche, cette attente de recette miracle produit énormément de souffrance, c'est que le principe du métier enseignant, et c'est ce qu'il y a d'ingrat dans le métier enseignant, c'est qu'on en voit très rarement l'efficacité immédiate. Moi, souvent, je parle à mes étudiants qu'il y a une efficacité différée. Beaucoup d'enseignants disent, oh, de toute façon, ils comprennent pas, ça marche pas, les gamins, ils écoutent pas, etc. Alors qu'en réalité, on sait comment fonctionnent les apprentissages, et les apprentissages, ça fonctionne, comme le disait madame, parfois sur plusieurs années, parfois sur plusieurs semaines, parfois instantanément aussi, et un enseignant, il reste un an avec ses élèves en France. Ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire de ne pas pouvoir avoir cette possibilité de suivi. Donc, c'est de la souffrance de ne pas voir l'efficacité immédiate de ce qu'on produit.
Alors, donc, justement, ça, je suis d'accord. Nous, on a la chance, justement, de garder nos élèves plusieurs années, de nombreuses années même. Donc, du coup, c'est vrai que cette frustration, on ne la vit pas. Je pense que ça, c'est une chose qu'il faudrait revoir, parce que c'est vrai qu'un enfant, parfois, on sème une graine et puis on ne sait pas pourquoi.
Ouais, en même temps, il y a beaucoup d'élèves qui sont contents de quitter un enseignant à la fin de l'année. Non, mais il y a souvent des inimitiés entre élèves et enseignants.
Mais c'est dans les deux sens. Hein. Moi, je connais des enseignants qui ont généré des vraies vocations chez des élèves. Hein. Moi, je pense plutôt qu'il faut voir le côté positif que l'enseignant va apporter apporter.
Mais vous semblez dire que dans votre collège Montessori, la bienveillance muée en méthode pédagogique fait qu'il n'y aurait pas de frottement entre les adultes et les enfants.
Ah, je dis pas ça.
Il n'y aurait pas d'exaspération.
Ce que je dis, c'est que l'enseignant est déterminant sur la vie de l'enfant, pour même sa vie d'adulte.
Il faut préciser aussi quand même que quand on prend un enfant et qu'on sait qu'on va l'avoir plusieurs heures par jour pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, c'est pas du tout le même comportement que quand on prend un enfant qu'on aura 2 heures par semaine pendant 9 mois. Donc, en fait, dire oui, mais certains enfants sont contents de quitter les enseignants et inversement, certains enseignants sont contents de quitter les enfants, ce qui est vrai aussi. Si on applique une autre règle qui est de dire qu'on a une forme de relation un peu perlée, ça peut être les retrouver à certains moments d'ailleurs, hein, alors ça se posera plus de la même façon en fait. Quand vous voyez quelqu'un et que vous savez que vous le voyez pour la seule fois de votre vie, vous n'avez pas du tout le même comportement que quand vous rentrez dans une aventure de plusieurs années.
Enfin, comment vous pourriez qualifier la relation du maître et de l'élève dans un collège Montessori, celui que vous dirigez en l'occurrence? À quoi ressemble cette relation?
C'est beaucoup basé sur le respect de l'enfant par rapport à l'enseignement, d'un enseignant et le respect de l'enseignant.
En théorie, tout le monde vous dira la même chose en principe, non?
Oui, en théorie. Et puis après, une bonne connaissance aussi de chacun. En fait, je pense que c'est justement si on a les enfants, les élèves plus longtemps, on apprend à mieux les connaître. Et si on apprend à mieux les connaître, on va leur apporter le meilleur, je pense.
Vous voulez dire qu'un enseignant, la bienveillance, chez vous, mais il est capable de dire que tel élève est davantage auditif dans sa façon de...
Pire que ça, il peut même vous dire quels sont ses goûts, qu'est-ce qu'il aime pas, etc.
En musique, dans ses loisirs,
bien sûr,
un professeur
bien sûr,
de mathématiques, passion. Il connaît ça de la personnalité de ses élèves.
Oui, bien sûr. Mais comme dit madame, quand on a son élève pendant 4 ans, 5 heures, 6 heures par semaine, on le connaît mieux que quand on l'a 2 heures par semaine sur une année.
Les disciplines sont décloisonnées chez vous?
Il y a un enseignant par matière, comme partout, mais comme l'établissement n'est pas très grand, on travaille beaucoup plus ensemble en transversalité, on parle beaucoup ensemble en fait. Et ça, je pense que c'est une des clés aussi de travailler en équipe, de travailler ensemble. Parce que justement, quand il y a un problème peut-être d'entente entre un enseignant et un élève, ou d'un élève vers un enseignant, peut-être qu'un autre qui l'apprécie va lui trouver des qualités qu'il va expliquer à l'autre enseignant, qui va voir l'enfant avec un œil différent.
Et Sylvie Desclèves, est-ce que vous, aujourd'hui, quand on dirige un établissement comme le vôtre, privé, hors contrat, un collège Montessori, on se tient informé des découvertes des neuroscientifiques sur l'apprentissage, le cerveau des enfants, des adolescents?
Moi, j'essaye vraiment de me tenir au courant le plus possible de tout ce qui est découvert. Moi, mon souhait avec cette école, c'est d'apporter le meilleur aux enfants. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas du Montessori pur, parce que je pense que, comme vous disiez, Montessori, ça date de quand même beaucoup, que la société a énormément évolué, qu'il y a eu des nouvelles recherches, des nouvelles découvertes, et que donc, il faut en tenir compte dans ce que l'on met en place pour les enfants.
Vos enseignants, comment sont-ils formés?
Comme je vous disais, on a un certain nombre d'enseignants de l'éducation nationale. Et après, ils reçoivent comme un enseignement Montessori avec moi, en vivant dans l'école, etc. Venir dans les classes, voir ce qui se passe chez les plus petits, pour voir d'où les enfants viennent, comment cette pédagogie...
Qu'est-ce qui est le plus compliqué pour un enseignant, par exemple un professeur de mathématiques ou d'histoire-géographie?
Le plus compliqué, c'est la pédagogie individuelle, en fait. Parce que l'enseignant, il est plus habitué à faire un cours à tout le monde. Et c'est vrai que là, c'est pas facile d'aller voir chacun.
On parle jamais à 25 élèves à la fois?
Dans certaines matières, jamais.
Ah bon?
Non, jamais.
Dans quelle matière? On ne parle jamais à 25 élèves.
En maths, on parle jamais à 25 élèves en même temps. En physique, on parle jamais à 25 élèves en même temps.
Donc on distribue du travail à des petits groupes et on passe de groupe en groupe?
En fait, non, chaque enfant a un plan de travail pour toute son année et chaque élève avance à son rythme là-dedans et le professeur passe de l'un à l'autre et explique. Bon, il peut expliquer à deux s'il y a besoin.
Laurence de Kock, vous, quel est votre regard, historienne de la didactique, sur aujourd'hui les attentes de recettes miracles et puis aussi l'innovation tout court à la lumière de ce qu'on découvre? Est-ce que l'éducation nationale est réellement restée, comme le disent certains professeurs, en marge des découvertes scientifiques sur le cerveau des enfants, par exemple, des neurosciences?
Alors, elle n'est pas restée en marge complètement de toutes les découvertes scientifiques. En revanche, sur les neurosciences, oui, il y a une certaine méfiance. Bon, d'abord, c'est assez nouveau, enfin nouveau à l'échelle de la recherche scientifique. Hein, mais oui, il y a une certaine méfiance, alors surtout du secondaire, hein, parce que là encore, on parle du collège. À l'école primaire, il faut savoir que les recherches neuroscientifiques, d'ailleurs, s'intéressent davantage à l'école primaire. Et beaucoup d'expériences aujourd'hui sont faites avec des recherches neuroscientifiques dans les écoles primaires, en partenariat avec les écoles secondaires. Pour le secondaire, il y a une vraie méfiance, pour les raisons que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a une formation disciplinarisée. Or, les neurosciences font pas du tout partie de la formation. Alors après, cela dit, sur les neurosciences, juste quelques mots quand même. J'ai pas du tout les compétences pour remettre en doute la pertinence des neurosciences, bien évidemment. Je pense que ça fait avancer plein de choses. De toute façon, neurosciences, déjà, ça veut dire énormément. Quand c'est dans le domaine médical, c'est pas comme quand c'est dans le domaine pédagogique. Maintenant, il y a une chose à laquelle il faut rester vigilant, et c'est toujours un peu mon dada, j'en parlais tout à l'heure, c'est que on peut pas non plus considérer qu'un élève, c'est un cobaye, entre guillemets, que l'on pourrait comme ça extraire de son monde social, de sa trajectoire sociale, du contexte dans lequel il grandit, de sa vie, de la façon dont il se construit et se sociabilise. Donc ce n'est pas qu'un cerveau, un enfant. Et ce qu'on voit par exemple dans certaines expériences de neurosciences, c'est quand même qu'on va prendre un enfant qui est un X ou Y, mais qui n'est pas un acteur sociologique. Alors moi qui suis pour le coup pédagogue et sociologue aussi, j'appelle quand même à la vigilance sur la disparition de la sociologie dans ce type de recherche, parce que ce qui fait aussi avancer l'école, c'est la sociologie de l'éducation, c'est-à-dire que votre enfant, si vous en avez un, il n'est pas pareil que le mien. Ce sont quand même des trajectoires individuelles, et ça ne s'interroge pas simplement du point de vue du fonctionnement de leur cerveau.
Est-ce que vous pensez que l'école aujourd'hui, l'école avec un grand E, va progresser, va transformer dans les années à venir la façon d'enseigner, parce que les attentes du côté des familles, parce que les attentes du côté des enseignants sont là aujourd'hui?
Ça se transforme, ça s'est déjà transformé de toute façon. Il ne faut pas considérer qu'on est dans l'école élémentaire comme aujourd'hui au temps d'Ernest Lavisse, sous la Troisième République. Même au collège, ça se transforme. Ça se transforme parce que les enseignants n'ont pas le choix. En revanche, ce qui est regrettable, c'est qu'ils ont des conditions matérielles qui font qu'ils sont obligés de bricoler. Et tout à l'heure, la sociabilité dont vous parliez, madame, sur le fait que les enseignants puissent se parler ensemble, puissent discuter, puissent monter des projets, échanger, ça c'est difficile. Il faut toujours en fait être en résistance contre l'institution quand on veut être un petit peu inventif dans le système traditionnel.
Moi, je vois tous les enseignants de collège qui viennent nous voir. Le disent beaucoup, c'est que c'est difficile par rapport à toute cette hiérarchie, toute cette lourdeur, quand ils veulent faire rien qu'une sortie, mais c'est tellement lourd pour eux, quoi. Alors que nous, on téléphone, on fait la sortie, on s'en va, quoi.
Merci en tout cas à toutes les deux pour cette conversation sur l'innovation dans l'école française. Sylvie Desclèves, vous publiez Montessori au collège aux éditions Ballant. Laurence Decoq, on peut retrouver notamment votre enquête sur l'innovation, Céline Alvarez, dans la revue du Crieur. On a mis toutes les références sur notre page 7 milliards sur le site RFI.fr. Merci à toute l'équipe. Et lundi, 7 milliards de voisins, être un homme dans le monde arabe. Aujourd'hui, nous en discuterons avec la chercheuse égyptienne Shirine Elfeki dans le cadre d'une grande enquête sur la masculinité dans le monde arabe. Voilà, merci à vous tous. Très bonne fin de semaine sur RFI. À lundi.